Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Dans son message adressé aux participants de la troisième édition de l'Abordi, promue par les associations chrétiennes des travailleurs italiens, ACLI à Rome, le pape François, qui a célébré mardi 17 décembre ses 88 ans, a exhorté les nouvelles générations à ne pas céder au contexte professionnel pollué où il est normal de faire n'importe quoi pour obtenir du prestige social ou de l'argent. Lancement officiel de la Semaine nationale de sensibilisation des élèves sur les méfaits de la drogue dans les écoles catholiques en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons également de l'actualité de l'Église, qui nous conduira aussi en République démocratique du Congo. Ce grand pays d'Afrique centrale sera également au cœur de l'actualité sociopolitique africaine de cette édition. La RDC a porté plainte en effet contre des filiales d'EPOL en France et en Belgique pour l'exportation et la livraison illégale à l'international des minerais du pays. Dans la deuxième partie de cette édition, nous accorderons la parole au père Fortuné Badou, recteur du sanctuaire marial Notre-Dame d'Arigbo au Bénin, qui célèbre cette année ses 70 ans d'existence, ainsi qu'au chargé de communication de ce diocèse, le père Jean-Paul Tony. Et nous terminerons l'édition de notre programme avec la rubrique consacrée aux prises de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Dans son message adressé aux participants de la troisième édition de l'Abordi, promue par les associations chrétiennes des travailleurs italiens, ACLI à Rome, le pape François a exhorté les nouvelles générations à ne pas céder au contexte professionnel pollué où il est normal de faire n'importe quoi pour obtenir du prestige social ou de l'argent. Le Saint-Père a souligné que l'entrée dans le monde du travail se fait ensemble, sinon le risque est de devenir les rouages d'une machine où ceux qui ont le pouvoir peuvent faire n'importe quoi avec nous. Et un modèle contraire à cette aliénation est celui de l'ACLI, a-t-il fait savoir, où les intuitions du cœur se transforment en liens sociaux. Au terme de son message, François a remercié les adultes présents, les invitant à ne pas plier les jeunes aux raisons de ceux qui existent. Ne corrompons pas leurs nouveautés, a-t-il ajouté, les exhortant à les introduire pas à pas dans le temps lent et même dans le poids des responsabilités, en faisant confiance à ce qui est semé dans leur cœur. C'est là que germe l'œuvre qui n'aliène pas mais qui libère, a expliqué le pape François. Rappelons aussi que le pape a célébré mardi 17 septembre ses 88 ans et nous lui souhaitons tous nos vœux de bonheur et de joie. Face au fléau de la drogue en Côte d'Ivoire, qui n'est plus seulement un phénomène urbain, mais qui a malheureusement gagné les villages, les campements et même les milieux professionnels, Mgr Alexis Touabli Youlo, évêque d'Abouville, a appelé lundi 16 décembre à combattre ce fléau dans une synergie d'action afin de l'éradiquer selon la vieille méthode, voir, juger et agir. Des mots forts prononcés lors du lancement officiel de la Semaine nationale de sensibilisation des élèves sur les méfaits de la drogue dans les écoles catholiques qui s'est tenue dans son diocèse. Plus de détails avec Marcel Ariston Blé.
Lors du lancement de la Semaine nationale de sensibilisation des élèves sur les méfaits de la drogue dans les écoles catholiques, Mgr Alexis Touabli Youlo, évêque d'Abouville, a invité la population à prendre de plus en plus conscience de ce fléau qui n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire.
Ce fléau, la drogue, qui n'est plus seulement un phénomène urbain, mais qui a malheureusement gagné nos villages, nos campements et même les milieux professionnels. Le mal est donc là. Mais identifier le mal ne suffit pas. Il faut le combattre afin de l'éradiquer. Selon la vieille méthode, voir, juger, agir.
La lutte ne sera pas assez facile, a reconnu le prélat, mais pas question selon lui de tomber dans le pessimisme. La victoire est possible, invitant tous les acteurs impliqués dans cette lutte contre la drogue en Côte d'Ivoire au courage et à se mettre en ordre de bataille. Notons que cette activité promue par les événements avec les Ivoiriens dont la mise en œuvre est assurée par le secrétariat exécutif national de l'éducation catholique a pour but d'inviter les acteurs à prendre davantage conscience du rôle qui est le leur dans ce combat, bouter la drogue hors des écoles du pays. Durant toute une semaine, les écoles catholiques en Côte d'Ivoire mèneront plusieurs activités en lien avec le thème de l'année scolaire 2024-2025, non à la drogue pour bâtir dans le Christ une école de qualité. Marcel Ariston Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire, pour Radio Vatican.
Et rendons-nous à présent en République démocratique du Congo, où la communauté paroissiale Saint-Éloi a célébré ses 60 ans d'existence. La messe d'action de grâce a été présidée par Mgr Carlos Ndaka, vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa. Il a félicité les fidèles de cette paroisse, desservie depuis 1964 par les missionnaires Oblats de Marie Immaculée, qui se sont investis dans la restauration de l'église paroissiale. Jean-Baptiste Malengue.
Vous serez heureux si vous demandez au Seigneur la grâce de faire ce qu'il vous demande dans l'évangile qui vous est prêché depuis 60 ans. Le vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa a exhorté ainsi les fidèles de la paroisse Saint-Éloi de Kinshasa-Barumbu le dimanche 15 décembre. La paroisse célébrait ses 60 ans d'existence. L'évêque auxiliaire de Kinshasa a félicité les fidèles qui se sont cotisés depuis 2 ans au moins pour l'agrandissement et la restauration de l'église paroissiale. L'église se transforme lorsque chacun pense au bien commun. Ce pays peut devenir un paradis sur terre si nous devenons réellement des chrétiens convaincus. Pour l'évêque, les 60 ans d'existence de la paroisse sont ainsi les 60 ans d'appel à la conversion. Le supérieur provincial des missionnaires Oblats de Marie Immaculée, le père Constant Kienge Kienge, a remercié l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo et tous les autres archevêques, depuis le cardinal Joseph Albert Malula, qui avait béni la chapelle Saint-Éloi le 10 décembre 1964 pour en faire une paroisse autonome confiée aux missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Le président de la commission diocésaine des communautés ecclésiales vivantes de base, François Kassenda, a remercié tous les missionnaires Oblats pour leur dévouement. Le curé de la paroisse, le père Blaise Paula, a remercié à son tour tous les Oblats présents à la messe, notamment leur aîné, Monseigneur Louis Mbol, évêque émérite d'Idiofa, et une bonne dizaine d'autres qui ont été curés ou vicaires de la paroisse Saint-Éloi. Jean-Baptiste Malengue, Kalunzu, pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Le géant d'Afrique centrale contre celui de la tech. L'État congolais a déposé une plainte en France et en Belgique contre des filiales du groupe Apple, accusées d'utiliser dans ses produits des minerais exploités illégalement en RDC. La République démocratique du Congo accuse en effet depuis plusieurs mois la marque à la pomme d'acheter des minerais passés en contrebande depuis l'est instable du pays jusqu'au Rwanda voisin, où ils sont blanchis et intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Écoutons à ce propos Pascal Moulegua pour plus de précisions.
Mandatés par Kinshasa, les avocats Robert Amsterdam, William Bourdon, Vincent Bergraf et Christophe Marchand ont déposé une plainte en France et Belgique visant Apple, l'accusant des recels et des pratiques commerciales trompeuses. Selon eux, la société américaine à la pomme blanche aurait acheté des minerais extraits illégalement de l'est de la RDC via le Rwanda voisin, où ces minerais seraient blanchis et intégrés dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Apple est accusé d'avoir affirmé à ses consommateurs que ses chaînes d'approvisionnement étaient propres alors qu'elle aurait facilité des activités criminelles telles que le financement des milices, des groupes terroristes, l'exploitation d'enfants dans des conditions de travail forcées ainsi que la dévastation environnementale. Les avocats s'appuient sur des rapports des Nations Unies, du département d'État américain et d'ONG comme Global Witness pour soutenir leurs accusations. Ils ont également sollicité Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, afin d'ouvrir un dialogue sur la responsabilité des acteurs impliqués dans ce trafic. Mise en demeure en avril dernier, Apple avait nié toute légitimité à ces accusations, tandis que Kigali avait qualifié les accusations congolaises de rhétoriques sans fondement. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI pour Radio Vatican.
Le Parlement éthiopien a approuvé mardi la libéralisation partielle de son système bancaire, permettant à des acteurs étrangers de s'implanter dans le pays d'Afrique de l'Est, dont l'économie est encore largement administrée, a annoncé Fana Bissi, un média proche du pouvoir. En prenant la tête de l'Éthiopie en 2018, le Premier ministre Abiy Ahmed avait affiché une volonté de réforme ambitieuse, notamment de modernisation d'une économie fortement étatisée, très encadrée et peu ouverte aux investissements étrangers. Mais de multiples conflits internes, dont la guerre meurtrière et destructrice dans la région septentrionale du Tigré de 2020 en 2022, ont mis un coup d'arrêt aux réformes. La gravité de la crise au Soudan, ravagée par plus d'un an et demi de guerre civile, n'est pas comprise par la communauté internationale, a déploré le coordinateur régional du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, Mamadou Diane Baldé. Les efforts diplomatiques ne sont pas à la hauteur des besoins, a estimé M. Diane Baldé dans un entretien à l'AFP au siège du HCR à Genève. « Je ne pense pas que le monde se rende compte de la gravité de la crise soudanaise et de son impact », a-t-il insisté à plusieurs reprises. Parmi les plus affectés par ce conflit sans fin, les enfants soudanais, c'est ce que déplore Teley Sadia, responsable du CAFOD, l'agence d'aide catholique officielle pour l'Angleterre et le pays de Galles au Soudan, des propos recueillis par Francesca Merlo de la rédaction anglophone de Radio Vatican.
Les enfants sont les grands perdants de cette guerre. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leur avenir, ils ne vont plus à l'école. Ça va prendre beaucoup de temps avant de récupérer tout cela. Ils sont aussi traumatisés par la guerre, surtout ceux qui vivent en dehors de la région du Darfour et qui sont moins habitués aux conflits armés de cette ampleur. Ce que vivent les enfants en ce moment est vraiment très difficile. En raison de tout ce qui se passe en ce moment, je ne peux ni le confirmer ni le démentir car je ne suis pas directement sur le terrain, mais nous avons reçu des informations comme quoi les deux camps recrutent des soldats parmi les enfants, les adolescents, la jeunesse. Au vu de la gravité du contexte, on ne peut rien exclure dans ce genre de situation.
Le diocèse de Damazoumé au Bénin célèbre depuis août 2024 les 70 ans de création du centre de pèlerinage marial Notre-Dame d'Aribo, érigé en 1954 par Mgr Louis Parisseau. Dans ce cadre, ce diocèse du centre du Bénin a organisé par anticipation, les 6 et 7 décembre, la deuxième édition du pèlerinage à la grotte Notre-Dame d'Aribo pour invoquer la paix et l'unité. Dans un entretien avec Radio Vatican, le recteur de ce sanctuaire, le père Fortuné Badou, ainsi que le chargé de communication dans ce diocèse, le père Jean-Paul Tony, nous décrivent le déroulement de cet événement lié à la piété mariale et au dogme de l'Immaculée Conception.
Cette année, c'est la deuxième édition de notre pèlerinage diocésain. La première impression qui est mienne, c'est que je me rends compte que le peuple de Dieu est de plus en plus aguerri et beaucoup plus favorable à ce genre de pèlerinage. Et puis, bien que les ordinants de cette année ne soient pas nombreux comme l'an dernier, il y a quand même cette affluence du peuple de Dieu qui est venu prier au pied de Marie, Notre-Dame d'Aribo, de la paix et de l'unité, autour de cette fête de l'Immaculée Conception. Voilà ce que je peux dire tout de suite.
Ce sanctuaire étant relié à celui de Lourdes, consacre une place particulière au dogme de l'Immaculée Conception. Comment cette dévotion est vécue par le peuple de Dieu qui accourt?
La dévotion mariale à Dassa avait toujours été une dévotion spectaculaire. Et quand on dit « je vais à Dassa », on sait que la première image qui arrive dans la tête de ceux qui disent « je vais à Dassa », c'est l'image de Marie. Et on se dit toujours « aller à Dassa », c'est aller à la rencontre de Marie. De plus en plus, aller à la rencontre de Marie de manière générale commence par devenir une dévotion un peu plus particulière et un peu plus concrète dans la vie des fidèles chrétiens au Bénin en général et dans le diocèse de Dassa en particulier.
Le recteur de ces sanctuaires, le père Fortuné Badou, revient sur cette célébration.
Un petit mot pour finir, c'est que nous sommes dans l'année jubilaire au centre marial ici, 70 ans de création. Et vous savez que c'est à l'occasion du centenaire, la définition du dogme de l'Immaculée Conception, que le centre a été créé en 1954. Donc ce fut une joie pour les fidèles. Ça va être la clôture de l'année jubilaire chez nous ici, donc ça déboche l'année de l'Église universelle 2025. Voilà, donc nous rendons grâce à Dieu par Marie pour tout ce qu'elle accomplit dans la vie de ses enfants que nous sommes, d'où que nous soyons. Et nous lui demandons de continuer à veiller non seulement sur l'Église du Bénin, mais sur toute l'humanité, afin que la paix et l'unité règne entre les fils et filles de Dieu, entre les fidèles du Christ que nous sommes, pour un bon témoignage de la foi rendue au Christ là où chacun de nous est.
Vous venez de suivre les pères Fortuné Badou et Jean-Paul Tony du diocèse de Dassa-Zoumé au Bénin, interrogés par Marie-Josée Moindo. Refermons cette édition avec notre rubrique consacrée aux prises de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde. Parole à Françoise Niamia.
Commençons, Christian, par la Syrie. Nous ne sommes pas des invités sur cette terre, ni des enfants d'aujourd'hui ou d'hier. Nous venons de l'Antioche des Apôtres, de cette terre qui a imprégné l'univers du nom de Jésus-Christ. Ce sont les mots du patriarche grec orthodoxe d'Antioche, Ioan X Yazigi, défendant la nature autochtone des communautés chrétiennes syriennes dans la nouvelle phase historique que traverse le pays. Son message publié récemment représente une sorte de manifeste des sentiments et des attentes de nombreux chrétiens syriens quant à l'avenir qui attend leur communauté de foi dans la Syrie de l'après-Assad. Aux fidèles musulmans, le patriarche orthodoxe d'Antioche rappelle qu'il partage le même destin avec des hauts et des bas. Le patriarche espère que la Syrie ne sera pas démembrée et restera un pays uni. La Syrie que nous voulons, a-t-il encore fait savoir, est un état civil dans lequel chacun a les mêmes droits et les mêmes devoirs, y compris le maintien des lois sur le statut personnel pour chacune de ses composantes, comme cela a été établi sous le régime Assad. En Corée du Sud, afin de construire un pays où soit respecté le principe fondamental de la démocratie, selon lequel tous sont égaux devant la loi et où personne ne puisse imposer ses propres opinions en violant les procédures démocratiques, l'Église catholique coréenne continuera à être aux côtés du peuple jusqu'à la fin. Telle est la position des évêques catholiques de Corée du Sud sur l'approbation de la motion de destitution du président Yoon Suk-yeol par l'Assemblée nationale. Au cours de ces derniers jours, le peuple sud-coréen a traversé des moments difficiles, mais a fait preuve d'une grande patience à travers des actions démocratiques et modérées, ont expliqué les évêques, appelant chacun à mettre de côté les conflits politiques et à travailler ensemble pour le bien de l'État et le bien-être du peuple. Chaque président souligne les évêques sud-coréens est appelé à exercer ses fonctions de manière sincère dans le respect de la Constitution et des lois. De ce fait, si dans l'exercice de sa fonction, les lois et les principes fondamentaux ne sont pas respectés, toute personne dans une société démocratique doit être démise de ses fonctions. C'est la justice dans une société démocratique, ont-ils encore souligné. Les évêques demandent à nouveau au président et à son gouvernement de demander pardon au peuple en espérant que la Cour évoluera rapidement sur la question cruciale et que la vie quotidienne des citoyens puisse revenir à la normale le plus rapidement possible. En Haïti, pas d'amélioration. Les gangs continuent de martyriser la population, tout particulièrement dans la capitale Port-au-Prince, dont ils contrôlent la majorité des quartiers. L'Église tente de poursuivre sa mission malgré un contexte très difficile, témoigne le père Germain Clairvaux, directeur du service jésuite pour les migrants en Haïti.
L'Église aussi en Haïti est souffrante. Il y a plein de paroisses à Port-au-Prince qui ne peuvent plus fonctionner. Il y a des prêtres qui sont obligés de laisser des communautés parce que les communautés là ne sont plus vivables. Il n'y a plus rien qui reste parce que ces gens sont obligés de partir, de laisser les zones, la zone parce que les gangs ont tout brûlé. Donc ça veut dire l'Église même à l'intérieur du pays est souffrante. C'est une Église qui n'a pas beaucoup de moyens et puis elle va vivre à l'instabilité. Il y a des écoles qui sont des écoles catholiques, par exemple, qui accueillent des enfants maintenant, qui doivent aller dans d'autres écoles, dans d'autres établissements, d'autres écoles, pour que ces enfants puissent passer des examens, parce que les lieux où leur centre était, ils ne peuvent plus y aller, ils ne peuvent plus fonctionner, des sœurs ou des prêtres. C'est une situation critique, très extrêmement critique, où il y a beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances. Chacun essaie de voir à sa manière comment y répondre, mais ce n'est pas facile.
Voilà des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. Direction pour terminer Saint-Domingue, où l'organisation salésienne Muchachos y Muchachas con Don Bosco célèbre son 40e anniversaire. En travaillant tous ensemble, il est possible de transformer la vie des plus jeunes pour le meilleur et de construire un avenir meilleur pour les générations à venir en suivant le rêve de Don Bosco. Tel est le message que l'organisation salésienne a lancé pour poursuivre l'éducation intégrale des enfants dominicains.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Chers auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.